Bienvenue sur le podcast Artisan Développeur, l'émission dédiée aux programmeurs qui parle de technique, bien sûr, de code durable, mais aussi du métier en lui-même, de recrutement, de développement personnel ou encore d'entrepreneuriat pour t'accompagner dans une vie de développeur épanouissante. Alors, es-tu prêt à passer au niveau supérieur? C'est parti!
Aujourd'hui, je suis avec Jean-Pierre Lambière. Jean-Pierre, bonjour.
Salut!
Tu me parlais là, il y a deux secondes, tu m'as aguiché complètement et ça nous donne le sujet du podcast. Tu es donc, j'ai le plaisir d'être en physique cette fois avec Jean-Pierre à Marseille qui vient pour intervenir chez un client. Et tu me disais que tu allais faire un sprint d'une journée.
Ouais.
Alors ça me plaît beaucoup parce qu'en tant qu'extrême programmeur, des sprints d'une journée, si tu veux, c'est juste la norme, quoi, tu vois, mais c'est pas la norme pour beaucoup de monde. Donc je suis très curieux, comment est-ce que tu vas mettre ça en œuvre? Concrètement, ça va ressembler à quoi?
Alors déjà, évidemment, ce n'est pas moi qui ai inventé ce concept. Effectivement, hein, y a notamment Ron Jeffries qui en parle. C'est en disant, si en gros l'équipe elle n'arrive pas à terminer son sprint, à faire tout ce qu'elle a à faire, y compris jusqu'à aller au bout, hein, jusqu'à mettre en production notamment, souvent ça qui est un peu douloureux dans certains contextes, faut essayer avec une itération plus courte.
Ce qui est complètement contre-intuitif par rapport à ce que font tous les gens que je vois, qui disent c'est trop
réflexe,
court, donc on rallonge
trop court,
la durée.
On en rajoute.
Et ça empire les choses. Souvent.
Parce qu'on en met plus, en fait, déjà.
Oui,
parce qu'à la limite, si on n'en mettait pas plus, ça pourrait marcher. Mais après, il y a quand même d'autres problèmes. On va prendre tout le temps qu'on a, etc. Donc l'idée, c'est plutôt on en fait moins. Et il va jusqu'au bout de cette pensée en disant, et s'il le faut, on va jusqu'au sprint d'une journée, quoi. Et puis en fait, il va même plus loin encore. Il dit même si on n'arrive même pas à développer quelque chose en une journée, alors on n'a qu'un seul objectif, c'est réussir à faire une mise en prod avec rien de nouveau dessus, quoi. Et voilà, effectivement. Bon, donc, t'imagines tous les leviers que derrière, on se retrouve à faire qu'on ait une chaîne de build qui marche bien et ainsi de suite. Et ça, ce concept-là, il a été repris par d'autres personnes, notamment John Cutler, qui voit beaucoup, beaucoup de vertus sur... et moi, c'est plutôt sous cet angle-là que je le reprends, en fait. C'est que, du coup, ça force les gens à réellement travailler ensemble.
Sur une journée, t'as pas le temps de dire « je t'envoie une spec, on se fait une conf, c'est tout de suite là, maintenant, on règle le truc, quoi ».
Ça, il y a cet aspect-là, et il y a aussi beaucoup l'aspect, puisque moi, je suis un grand fan des feature teams. D'ailleurs, on avait eu plusieurs podcasts sur le sujet-là, et un problème récurrent qui arrive, c'est et comment on fait pour travailler tous ensemble alors qu'on n'est pas sur les mêmes stacks, qu'on n'a pas les mêmes compétences, etc. Du coup, c'est compliqué. Et donc, en général, les gens imaginent qu'il faut rentrer dans des usines à gaz de planification où on a chacun ses tâches, alors qu'il faut faire l'inverse. C'est plutôt, tu vas aider ton copain. Et l'idée, elle est là, quoi. C'est, t'as une journée, t'as une chose à faire. Et c'est la seule chose à faire. Hein. Donc
et tout le monde est
focus
là-dessus.
On construit bien un cadre focus, voilà, et on y va. Et donc finalement, même un peu plus loin, on a même ce qu'on appelle le swarming, qui est un peu comme du mob programming, mais sauf que ce n'est pas forcément que des programmeurs, en fait. Quoi. C'est toute l'équipe, le testeur, le designer, ainsi de suite.
Clairement, le truc qui me vient instinctivement là, quand tu me parles de ça, tout de suite, je pense binômage. Binômage pour raccourcir les cycles. Mais aussi, ça, c'est quelque chose que j'aimerais tester, tu vois. Dans un des gros projets sur lesquels je bosse, on galère toujours un peu sur le côté UX design et le passage de l'UX design au dev, cette espèce d'interaction. Et j'en suis arrivé à me dire, il faudrait qu'on essaye, on n'a pas eu encore le courage de le faire, mais je me suis dit, il faudrait qu'on essaye de faire binômer un UX designer avec un développeur. Et je suis convaincu qu'en fait, on y gagnerait du temps, en fait.
Sachant qu'ils le font naturellement au moins un peu, au moins sur les dernières étapes, quand il y a la passation souvent... Il y a un peu de flottement. Après,
pour moi, binômer, c'est vraiment être là.
Je suis d'accord.
Pour moi, tu sais que tu binômes quand tu fais des choses chiantes ensemble. C'est-à-dire que tu fais des choses qui ne justifieraient pas d'être à deux et que tu le fais quand même à deux. C'est là, c'est que tu es en train de binômer. Et il y a encore beaucoup de valeurs qui se passent à cet endroit-là, même si ce n'est pas forcément dans les mœurs. Et même moi, je dois reconnaître que depuis qu'on est passé en remote et même avant quand on était ensemble, même si j'aime le binômage, ce n'était pas forcément quelque chose de très très répandu, on le faisait pas tout le temps. J'y reviens parce que j'en redécouvre les vertus et je me dis, est-ce qu'on pourrait pas pousser le curseur jusqu'à prendre des gens dont c'est des métiers complètement différents, pas juste une question de front et back, hein, et de les faire bosser ensemble, quoi. Et finalement, ce que tu me dis, c'est un peu là-dedans.
C'est exactement ça, là, l'enjeu. C'est ça. Hein, c'est effectivement, il y a le front et le back qui ont du mal à travailler ensemble et du coup, le contexte n'est pas très clair du « est-ce qu'il faudrait qu'ils assument ça jusqu'au bout ?» et qu'en fait, ils structurent deux équipes. Mais ce n'est pas forcément ce qu'ils veulent, et probablement pour les bonnes raisons. Parce qu'ils veulent au contraire travailler plus vite et se focaliser sur le produit. Donc, il y a beaucoup de sens à les mettre dans la même équipe. Par contre, du coup, effectivement, il y a un moment où il faut qu'ils travaillent ensemble. Alors, soit travailler ensemble, soit commencer même à acquérir une forme de devenir un peu les backups de leurs camarades sur l'autre techno. On ne s'attend pas à ce qu'ils deviennent experts sur tout, mais voilà, qu'ils deviennent backups, qu'ils aient un minimum de connaissances, de compétences pour aider. Parce qu'en fait, on n'arrive jamais à avoir une charge qui occupe pile poil 100% tout le monde. Donc, on est toujours obligé d'avoir des choses comme ça. On peut se passer du travail. Donc ça, c'est sur l'aspect un peu purement technique des gens qui ne travaillent pas ensemble. Et après, effectivement, il y a toutes les vertus de juste... on veut raccourcir le cycle. Et en fait, c'est les passages de bâton, effectivement, qui prennent du temps plus que le travail lui-même. Ce qui, d'ailleurs, fait un peu écho quand on parle de no estimate. C'est un peu l'idée qu'en vrai, en général, quand on donne une estimation, on donne l'estimation de la partie dev. Sauf qu'en fait, il y a énormément avant, il y a énormément après, plus tout un tas de trucs autour de juste synchroniser, se parler, etc. Et en fait... une petite ou une grosse user story, en fait, elle prend autant de temps qu'on prend tout en compte. Donc, comptons juste le nombre d'éléments et t'auras un heuristique qui marchera très, très bien. Mmh. Et c'est un peu ça, en fait. Si on ne regarde pas juste la partie dev, qui est le focus traditionnel, hein, productivité. Il faut que les gens soient occupés à 100%. C'est les machines, toi. Tu perds de l'argent si tes machines ne sont pas occupées. Alors que ça, c'est faux. Et c'est pas faux parce qu'on parle de machines, hein, puisque même ça, c'est l'histoire de Toyota et du Lean. Hein, c'est que on a plus d'intérêt à avoir des machines moins productives mais flexibles qu'avoir des machines qui produisent à fond et qui en fait produisent plus que le reste de la chaîne et ça sert à rien, ça crée du stock, le stock ça a du coût aussi, etc. Donc voilà, donc c'est vraiment comment on rapproche les gens et comment on réduit le time to market finalement tout simplement quoi. Depuis le moment où on a l'idée jusqu'au moment où il est entre les mains de l'utilisateur.
Et si tu reviens sur cette expérience d'une journée, alors ça ressemble à quoi typiquement si j'étais dans un sprint d'une journée?
Eh ben, le matin, les personnes... Alors du coup, forcément, on imagine que pour faire ça, on va être quand même dans une logique où les gens doivent se synchroniser. Parce que le but, c'est qu'ils fassent ensemble. Donc, ils arrivent à une heure prédéfinie. Et on va passer typiquement le matin ou le début de la matinée à juste avoir des discussions. Qu'est-ce qu'on doit faire? Quelle est une chose, une seule, qu'on pourra faire, qu'on arrivera à faire dans la journée et qui apporte de la valeur pour l'utilisateur?
Tant qu'à y être.
Voilà, donc... évidemment, il y aura peut-être déjà tout un tas d'échanges de juste comment on allège jusqu'à ce que la chose tienne dans la journée, et tout en apportant toujours de la valeur. Donc là, on voit qu'en plus, il y a le challenge traditionnel de faire du découpage qu'on est obligé de répondre. Mmh. On peut pas juste se dire, ce sera une grosse story, on la mettra en première dans le sprint, comme ça passera. Ça, c'est un enjeu à part entière. Et après, on discute parce qu'il faut du coup aller... on a une idée, mais comment on va au bout? Du coup, quelque part, on se fait les specs. Hein, c'est toujours la même chose. Donc, le spec, c'est devenu un gros mot, mais à la place, on fait des critères d'acceptation. On dit clairement ce qu'on veut. C'est une autre forme de spec. On dit clairement ce qu'on veut. On dit comment on va y aller. Et puis, assez naturellement, on embraye sur comment on s'organise, comment on y va. Et après, on espère que ça deviendra un peu fluide. Mais voilà, les gens, ils seront là. Et voilà. Et en fait, c'est toujours la même chose. C'est... comme quand on est en Kanban, ça va marcher parce qu'à un moment, le pipeline il est plein, donc tu n'as plus de travail, donc tu es obligé d'aider tes copains. Mmh. Tout comme quand tu es
si
en Scrum.
Même si c'est porter le café et soutenir, faire la Pop-Bomb Girls.
Et c'est la même chose quand on est en Scrum, mais avec la fin de sprint. C'est la fin de sprint, il reste trois trucs à finir, ce n'est pas les choses qui sont chez toi. Du coup, comment tu aides les autres? L'idée, c'est vraiment de prendre juste cet élément-là, et là, sauf qu'on l'a sur une seule journée. Quoi. Donc en fait, ce qu'on attend, c'est que oui, il y a des moments où les gens n'ont rien à faire. Et donc mécaniquement, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont être obligés d'aider les autres ou de s'intéresser ou de trouver d'autres choses, etc. Et voilà, et donc ça va être une forme de binomage. J'ai une forme, puisque dans le binomage, on est plus dans l'idée de développeurs qui sont tous les deux, qui connaissent déjà la chose sur laquelle on travaille et qui s'apportent quelque chose. Là, on est plus dans le partage de compétences, dans le complément de compétences. Hein, on a le designer, le front, le back, le database, la production et ainsi de suite. Et on voit comment on avance du début de la conception de l'idée jusqu'à la mise en prod. Et ce que disait justement John Cutler là-dessus, hein, c'est que c'est pas forcément un schéma pérenne. Voilà, c'est pas forcément la bonne manière de s'organiser, de faire que des sprints d'une semaine. Par contre, dans tous les cas, les équipes qui l'ont fait sont toujours ressorties grandies en fait. Mmh. Elles ont toujours appris quelque chose.
Oui, tu as repoussé le curseur quelque part et ça t'a obligé à réfléchir sur ta manière de travailler.
C'est toujours un exercice intéressant pour se challenger, pour voir comment travailler autrement, etc. Donc c'est pas forcément la manière de travailler, mais toujours une manière intéressante, une bonne expérience pour expérimenter, pour tester, pour voir comment faire les choses, quoi.
Ah bah écoute, je te remercie de cet insight et je te propose que ce soit le mot de la fin. Si les gens veulent en savoir plus et te contacter, ils peuvent venir où ?
Ah bah ils peuvent me contacter en allant par exemple sur mon blog, jp-lambert.me. Et puis bien sûr, ils peuvent continuer de regarder mes vidéos et de m'envoyer des messages d'amour à propos de Scrum Life. J'en reçois toujours beaucoup, ça fait très plaisir, mais continuez.
Ça marche, merci Jean-Pierre. Quant à toi, cher auditeur, j'espère que tu as apprécié ce podcast et je t'invite à nous rejoindre sur artisandeveloppeur.fr pour rejoindre la communauté des développeurs passionnés. À demain.